ou quelqu'un que vous connaissez étudier une nouvelle langue? Le concours national des langues SBS 2018 est ouvert jusqu'au 18 novembre. Pour plus d'informations, rendez-vous sur sbs.com.au/nlc18. Je suis avec Annabelle Gassman et Jackie Ilmer, coprésidente toutes les deux de la NAFT. Bonjour et bienvenue sur les ondes de SBS French. Bonjour.
Merci.
Alors, on va commencer par les présentations. Jackie, peut-être vous d'abord. Donc, vous êtes australienne, vous êtes la fondatrice de la NAFT. D'où vient cette passion pour le français et son apprentissage?
J'ai toujours été fascinée par les langues et j'ai adoré décoder, déchiffrer les sens des mots. Et j'ai poursuivi mes études à l'école, au lycée, pas à l'école, au lycée et à l'université. Avec le français, il y avait pas beaucoup d'embauches à l'époque et c'était, le destin c'était être professeur de français, mais c'était mon amour, mon désir. Et c'est comme ça.
Et vous, Annabelle, donc vous êtes française, vous êtes arrivée en Australie il y a 20 ans.
Oui, c'est ça, je suis arrivée il y a 20 ans pour suivre mon futur mari que j'avais rencontré en France.
Et donc, vous avez décidé de continuer à enseigner le français parce que vous étiez professeur de lettres.
C'est ça, français-latin en France. Et puis donc, avec un CAPES et une maîtrise de FLE. Et donc, quand je suis arrivée en Australie à Sydney, j'ai commencé par travailler à l'Alliance française. Et puis après ça, il y a un lycée qui a fait appel à moi. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé ma carrière dans les lycées privés en Australie.
Alors, Jackie, vous êtes donc toutes les deux coprésidentes de la NAFT.
Oui.
Mais vous avez fondé la NAFT.
Avec d'autres.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la NAFT?
Oui, parce qu'il y avait une sorte de lacune, il y avait un manque de soutien parce que l'association qui existait, qui s'appelait le MLTA, qui était pour toutes les langues étrangères, avait disparu. Et donc, pour aider les professeurs d'avoir un soutien, un point de repère, on avait décidé d'établir avec le conseiller pédagogique qui était en Australie à l'époque. Malheureusement, ce poste n'existe plus. On avait décidé de créer quelque chose pour les profs de français. Et ça, c'est la NAFT. On avait dit NAFT, New South Wales Association of French Teachers. Et on était un tout petit groupe au début. Et ça grandit. On a des ateliers pour les profs. On a maintenant des ateliers pour les élèves. Pour donner ce soutien nécessaire, surtout pour les profs qui sont à distance, à la campagne en Nouvelle-Galles du Sud. Et ça, c'était l'origine de la NAFT, pour créer un soutien pour les profs de français.
Et aujourd'hui, la NAFT offre des cours de français, mais aussi forme les professeurs?
Alors, on ne donne pas vraiment des cours de français. En fait, on fait de la formation de professeurs. On fait une dizaine d'ateliers pour les profs par an. Et on fournit en fait 26 heures accréditées par l'équivalent du rectorat ici qui s'appelle NESA. 26 heures par an d'heures de formation, alors qu'il n'en faut que 50 tous les 5 ans pour l'accréditation d'un prof en New South Wales. Donc ce sont des ateliers qui permettent aux profs de français de rester à la page, de connaître toutes les techniques pour corriger de manière professionnelle et avec les standards du bac, de connaître les techniques pour assessment, c'est-à-dire comment est-ce qu'il faut, combien de fois par an, etc. On essaye de faire en sorte qu'ils soient à la pointe de leur matière, quoi.
Oui, quand il y a des changements, par exemple, de la part de NESA, quand il y a un changement de syllabus, on essaie de mener ou de créer des ateliers pour partager des idées entre les profs, comment suivre, accéder aux nouveaux programmes requis par NESA.
Oui. Et bien sûr, il y a eu cette fameuse conférence internationale sur 3 jours et demi qui vient d'avoir lieu. C'était une conférence avec des experts venus du monde entier, que ce soit de la Réunion, de France, de Belgique. Alors c'était une conférence en partenariat avec la FATFA, qui est l'association des profs de français de toute l'Australie. Et vraiment, on avait des gens de grande pointure, comme par exemple Michel Boiron, qui est le directeur du CAVILAM, qui est l'alliance française la plus connue dans toute la France. Jean-Marc de Failly, qui est venu de Belgique, de Liège. Enfin, c'était vraiment des très grandes pointures.
Il est président de la FIPF,
oui,
qui est la Fédération internationale des professeurs de français. Mm-hmm. Et donc, c'était de grande envergure, cette conférence.
Ouais.
Et il y avait une présence considérable. Oui. Maintenant, la NAFTE a 330 plus membres.
Oui, on a 336 membres plus 15 membres associés, puisque en fait, on a aussi des membres associés qui organisent des voyages scolaires, des échanges pour les profs en France ou à Tours, par exemple. Et nous-mêmes, l'année dernière, on avait aussi organisé, tous les deux ans en fait, une immersion totale pour les profs pendant 15 jours en Nouvelle-Calédonie pour qu'ils suivent des cours dans des écoles françaises et à l'université pour mettre en pratique un petit peu tout, pour améliorer leur compétences linguistiques en fait.
Et ils étaient hébergés avec des familles françaises. Ouais. Et donc c'était vraiment une bonne linguistique pour ces professeurs.
Et d'ailleurs maintenant on a une chargée de liaison avec Tahiti et on va essayer de mettre en place la même chose pour essayer de faire des voyages d'immersion pour les profs à Tahiti.
Alors est-ce qu'on peut revenir peut-être rapidement sur le nombre, sur les statistiques, le nombre peut-être de professeurs qui enseignent le français ou d'élèves qui apprennent le français, si on a peut-être une idée de plus ou moins combien d'élèves, peut-être dans le New South Wales ou en Australie. Quelle est la place du français
Donc, c'est très difficile, on n'a pas les statistiques vraiment précises, mais on a à peu près 4500 élèves qui étudient le français au niveau du bac en Australie. On a à peu près 800 élèves qui font du français jusqu'au niveau bac ici en New South Wales. Malheureusement, il y a une grande différence, par exemple, entre le New South Wales et le Victoria, puisque dans le Victoria, il y en a plus de 2100. Et il faut dire que le gouvernement du Victoria promeut énormément les langues et soutient les associations, alors que nous, on n'a pas vraiment beaucoup de soutien de notre gouvernement français, ni de notre gouvernement
local. Il faut être honnête,
ouais. Faut le dire.
Oui, oui. Malheureusement, c'est la différence entre les États, puisque au niveau primaire, secondaire, c'est l'État qui gère l'éducation, qui est responsable. Donc, dans le Victoria, les langues sont beaucoup plus appréciées et valorisées, tandis que...
Et cotées au niveau du bac,
ouais,
qu'elles ne le sont dans le New South Wales.
Oui,
parce que c'est difficile d'apprendre une langue. C'est pas facile.
Oui. Mais le français est quand même assez populaire.
Oui, alors c'est avec le japonais la deuxième langue la plus enseignée dans le New South Wales.
Comment ça se fait? Comment on peut l'expliquer? Que ce soit le français et pas l'italien ou le français et pas l'espagnol. Pourquoi le français a cette place un peu particulière aux yeux des Australiens?
Est-ce qu'il y a... Je pense qu'il y a beaucoup de francophiles, ça c'est certain. Mm-hmm. Quand on voit le succès du festival du film français à Sydney. Je sais que c'est l'italien qui est prédominant dans les écoles publiques au primaire. Avec le chinois aussi, ça dépend des écoles. Mais au niveau du secondaire, c'est vraiment un enthousiasme. Toutes les écoles privées enseigne le français. Les cinq langues majeures sont d'abord le japonais,
oui.
Le français, et puis après c'est le chinois, l'espagnol, l'allemand est tombé un petit peu plus en désuétude, l'indonésien aussi, mais le français continue parce que c'est une matière difficile en fait.
Mais je pense qu'il y a une attraction exotique aussi.
Mais c'est intellectuellement satisfaisant, justement.
Oui, oui. Et il n'y a pas de vraie communauté française, dans le sens que dans les écoles, on voit qu'il y a des communautés italiennes ou espagnoles ou hispanophones qui parlent italien, qui parlent chinois, etc. On n'a pas un grand chiffre pour le français. Les Français qui sont ici sont un peu répartis un peu partout en Nouvelle-Galles du Sud. Et peut-être ça rend la matière un peu plus exotique, un peu une curiosité. Et je dis aussi que la présence de la nourriture, du film, le festival de films, etc., encourage cette curiosité et le désir d'accéder à cette langue.
Est-ce que c'est difficile pour un professeur, une professeure française, qui vient s'installer en Australie, de s'adapter au système scolaire australien?
Oui, c'était pas du tout la même chose, puisque j'enseignais la littérature en France, alors que maintenant j'enseigne le français comme une langue, et j'enseigne beaucoup la grammaire, mais aussi la culture française, avec grand, grand, grand plaisir. C'est simplement un métier différent.
Oui, et c'est pas automatique. Un prof de français en France ne peut pas venir en Australie et croire « Ah, je peux m'installer et entrer dans le système australien ». Ça, c'est pas automatique. Il faut que les qualifications soient reconnues par chaque État. et que s'adapter à ce système d'examen, le système d'enseigner une langue comme langue étrangère et pas une langue de culture et de littérature comme en France, là, il y a de grandes différences là.
Quelles sont les grosses différences entre le système scolaire français et australien ?
En fait, justement, ce qui est intéressant, ce sont toutes ces différences culturelles. C'est ça qui vraiment me passionne. Mais en France, le prof est encore sur sa chaire, en train de dispenser son savoir, et les élèves prennent des notes de manière assez passive, alors que le prof est beaucoup plus... comme un tuteur ici en Australie, on épaule les étudiants. Et ce que j'adore aussi dans les écoles, c'est qu'on essaye de soutenir les élèves, pas simplement d'un point de vue académique. Il y a aussi tout un environnement où les gens peuvent montrer leur talent, que ce soit en sport, en musique. Donc on essaye de développer vraiment toute la personne, développer le caractère et la personne en tant que tel, alors qu'en France, c'était quand même un rapport bien plus, un petit peu plus froid, si vous voulez, entre le prof et les élèves, que ça n'est en Australie.
C'est vrai ça, oui.
D'ailleurs, les élèves qui partent en échange sont toujours un petit peu choqués par ça, parce que, ouais, c'est ça, le rapport est un petit peu plus respectueux, ou peut-être un peu plus distant entre le prof et les élèves, qu'il ne l'est ici en Australie.
Ici, c'est peut-être un peu plus humain, un peu plus... peut-être pas plus humain, parce que bon, il y a plein de professeurs qui sont humains aussi en France, mais en France, c'est quand même vieille école. Ça reste vieille école ou...
Et puis c'est aussi complètement fondé sur la réussite académique. Alors que là, ici, c'est plutôt, je le vois dans les écoles privées en oui. particulier, le développement de la personne entière. Oui. C'est-à-dire que c'est à la fois ce à quoi il parvient de manière académique, les résultats scolaires, mais ce n'est pas la seule chose. C'est aussi les résultats en tant que champion d'escrime ou champion de natation ou champion en dessin, quoi.
Parce qu'il y a des activités qui sont obligatoires. Le sport, etc., est obligatoire à l'école. Mm. Et les profs de tous les jours sont impliqués dans ces activités. Et il y a une partie du curriculum qui s'appelle Pastoral Care. Et chaque prof est obligé de participer aux soins d'un élève entièrement. Pas simplement le côté académique. C'est un être humain avec ses besoins.
Oui, en France, par exemple, moi, j'avais le CAPES, donc j'enseignais 18 heures par semaine. J'allais, je venais. Il n'y avait pas de vie de l'école. J'étais seule dans ma classe. Je faisais un petit peu ce que je voulais dans ma classe. C'était comme une profession libérale, si vous voulez. Alors qu'en Australie, ici, un prof qui travaille à temps complet, il est à l'école au moins de 8 heures à... 3, 4, 5 heures tous les jours. Et donc, dans les assemblées hebdomadaires, il y a justement ces récompenses pour les élèves qui ont obtenu des résultats fabuleux dans d'autres matières que les matières maths, français, histoire, etc. Donc, c'est ça qui est chouette. C'est qu'on apprend à connaître les élèves beaucoup mieux.
Et une autre grande différence, c'est qu'en France, les langues sont obligatoires, tandis qu'ici, il n'y a que 100 heures qui sont obligatoires dans le secondaire. Et il n'y a aucune obligation de poursuivre une étude d'une langue étrangère. Ça, c'est triste.
Surtout quand on sait que 50% de la population en Australie maintenant a des parents d'origine étrangère. Donc, en fait, il y a beaucoup plus de bilingues que de monolingues en Australie. Donc, c'est vraiment dommage qu'on ne fasse pas plus de promotion des langues. Mais enfin, bon, aujourd'hui, on a la chance de pouvoir le faire.
Est-ce que vous pensez que donc, cette différence d'éducation, c'est-à-dire en Australie, de se baser plus sur le développement de l'enfant, plus que les résultats académiques, ça change après dans l'éducation, dans la façon dont ils grandissent?
Ben, je pense qu'en Australie, les profs essayent de rester à la pointe au niveau des techniques d'enseignement, au niveau de la compréhension et du bien-être des élèves. La formation professionnelle est énorme dans les pays anglo-saxons, et je pense que c'est vraiment important. C'est vraiment chouette. Moi, je suis très contente de ce système, en fait. Oui. Pour mes enfants aussi, en fait.
Ouais. Alors, est-ce que c'est plus difficile de faire apprendre le français, enfin, la matière française à un enfant qui parle déjà français, ou est-ce que c'est plus difficile de faire apprendre le français à un enfant qui ne parle pas du tout la langue? C'est-à-dire que quand vous, par exemple, vous enseignez... Bon, alors, c'était professeur de lettres, mais si vous enseignez le français, mais même au primaire, on enseigne la façon de parler, la grammaire, l'orthographe. Et est-ce que c'est plus... Comment sont les différences? Parce que là, c'est vraiment faire apprendre une toute nouvelle langue, alors qu'un enfant qui parle déjà le français...
Ben, en fait, il paraît que pour maîtriser quelque chose, il faut en faire 10 000 heures. D'accord? Donc, que ce soit être champion de tennis ou champion d'échecs ou quoi que ce soit. Donc, on est très très loin des 10 000 heures à l'école pour l'enseignement du français. Donc, on part à zéro. D'accord? Il faut tout leur apprendre. Le présent, conjuguer les verbes, etc. Mais ce qui est fascinant, c'est que, en fait, en Australie, les élèves n'ont pas d'enseignement de la grammaire formelle comme on l'a en France. Donc, en fait, nous, on a une connaissance de la grammaire qui est fondamentale et qu'on peut appliquer après à toutes les langues. Et moi, Jackie en parle au moins 5 couramment. Moi, j'ai fait du français, du latin, du grec, de l'allemand et de l'espagnol. Et donc, je peux appliquer ce système de la grammaire française à une autre langue et voir si c'est la même chose ou si c'est si différent. Et en fait, c'est dans nos cours de français que les élèves anglo-saxons, pour la première fois, réfléchissent à leur langue. C'est quoi un adverbe? C'est quoi un adjectif?
Oui. Ils adorent ça. Ils disent, j'ai jamais su ça. Ah bon?
Et donc, en fait, c'est la première occasion pour faire ce qu'on appelle du métalangage, c'est-à-dire de leur apprendre leur propre langue, le fonctionnement de leur propre langue, parce qu'ils n'ont jamais vraiment réfléchi. Mais pour répondre à votre question, moi, j'ai 2 enfants qui sont bilingues à la maison, mais encore une fois, le bilinguisme, il a différents niveaux. Donc, par exemple, mes filles, elles comprennent absolument tout. Elles regardent des films sans les sous-titres, elles comprennent l'humour, elles comprennent la culture française, elles sont françaises, à moitié françaises. Mais par contre, ça va être l'orthographe qui va laisser à désirer, parce qu'elles n'ont jamais qu'entendu la langue. Mmh. Elles m'entendent le parler, mais elles ne savent pas forcément comment ça s'écrit. Donc les terminaisons des verbes sont parfois un petit peu floues.
Oui, et ça c'est souvent le cas avec des enfants qui ont un arrière-fond français, que le côté écrit c'est manquant. Et c'est frustrant pour eux, parce qu'ils pensent, je comprends tout, je peux parler, pourquoi toute cette grammaire, pour savoir s'il y a un ENT à la fin du verbe, etc. etc. Et pour les non-francophones, puisque c'est un tableau blanc, c'est bien, parce qu'on commence du début, et ils acceptent, ils aiment intégrer tout ça.
Comment est-ce qu'on devient membre de la NAFT?
C'est facile, il faut aller sur notre site web, c'est www.naft.org.au. Et pour le moment, il y aura juste le renouvellement des membres jusqu'au 28 janvier, je pense. Et puis, il y aura un petit bouton qui dit Join. Et si c'est pour des nouvelles personnes, il faut appuyer sur Join. Et c'est tout, c'est clair, c'est facile et c'est pas du tout cher. C'est très très bon marché comme association professionnelle.
Est-ce qu'il y a quoi que ce soit qu'on puisse rajouter peut-être pour nos auditeurs?
Oui, donc on est sur le point de lancer une plateforme Facebook pour qu'on puisse avoir un forum de discussion entre profs, pour qu'ils puissent partager des ressources. Donc ce sera un groupe fermé, mais en fait la NAFT essaye quand même de se mettre au 21e siècle au niveau de la technologie. Et puis on va lancer un premier atelier grammaire le 1er décembre, pour que les profs puissent venir poser toutes les questions auxquelles ils ne savent pas répondre, parce que c'est bien aussi d'affronter ses peurs de temps en temps en tant que prof. Donc, ils nous ont demandé d'organiser ça. Oui. Et puis, voilà, c'est ça les prochaines choses qui vont se passer avec la NAFT.
Oui, c'est ça. Venez, venez nombreux. Prof.
Annabelle, Jackie, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur les ondes de SBS en français.
Et merci à vous.
Merci à vous.
Êtes-vous inscrit au concours national des langues SBS 2018? Le concours est ouvert à toute personne apprenant une nouvelle langue jusqu'au 18 novembre. Pour plus d'informations, visitez sbs.com.au/nlc18.